Le géopolitique, épisode bonus 1, la Russie, héritage de l'ancienne URSS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast qui traite à la fois des questions d'actualité et des questions de géopolitique, toujours avec un seul objectif, rendre la géopolitique accessible au plus grand nombre car c'est une science humaine parfois réservée aux élites. Aujourd'hui, nous allons parler de l'URSS et de la Russie dans cet épisode spécial réservé aux abonnés. Alors si vous écoutez cet épisode, je vous remercie d'être toujours là, c'est un grand plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'en profite pour passer une petite dédicace à nos amis qui nous écoutent depuis le Mexique, puisque la géopolitique est classée 6e dans la rubrique actualité dans tous les podcasts mexicains. Nous vous remercions donc une dernière fois et nous partons tout de suite avec tout simplement un petit point culture, puisque pour comprendre l'URSS et la Russie, il faut savoir ce qu'est le communisme et il faut savoir ce qu'est l'URSS. Nous allons donc introduire notre podcast ainsi, en disant que l'URSS, eh bien, c'était un régime communiste depuis la révolution russe de 1917. Cette révolution, elle a été menée par Lénine, le fameux, qui était le leader des bolcheviks, un groupe révolutionnaire. L'idéologie communiste, elle a été inventée par Karl Marx, un philosophe allemand, qui a écrit un livre où il explique toute eh bien, cette doctrine que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur internet au format PDF gratuitement. Eh bien, cette idéologie, elle oppose les prolétaires, ceux qui n'ont que leur force pour travailler et gagner de l'argent, et la bourgeoisie. Les premiers, les prolétaires, eh bien, ce sont les travailleurs donc, et les seconds, la bourgeoisie, ils représentent le capital. Karl Marx pense que les travailleurs créent de la richesse mais restent pauvres, alors que la bourgeoisie, pour caricaturer, ne fait rien mais s'enrichit. Pour lui, alors, la solution, c'est de collectiviser les moyens de production et de supprimer tout simplement la bourgeoisie. Pour cela, il faudrait abolir les propriétés privées et les moyens de production privés. Pour cela, eh bien, on collectivise tout. C'est donc Lénine, en 1917, qui est le premier à l'appliquer. En 1924, comme vous le savez peut-être, il est succédé par Staline à la tête de l'URSS. Alors si vous avez bien fait attention au titre de cet épisode bonus, nous avons nommé la Russie et l'URSS dans la même phrase. Car la Russie d'aujourd'hui ne pourrait pas exister sans l'URSS d'hier. La Russie, effectivement, dirigée par Vladimir Poutine, eh bien, s'appuie sur de nombreux éléments que l'on peut reconnaître dans l'URSS. C'est pour cela que nous allons commencer par comprendre comment l'URSS a chuté, comment elle est passée du statut de superpuissance avec les États-Unis durant la guerre froide à, eh bien, sa disparition après notamment la chute du mur de Berlin en 1989. La chute de l'URSS, c'est de 1985 à 1991 que cela se produit. Et il va avoir un homme qui va tenter de la sauver durant ces 6 années. Il s'agit de Gorbatchev, que vous connaissez certainement. Pour cela, il va notamment mettre en place une réforme que nous pouvons appeler perestroïka. Alors, c'est un mot compliqué puisqu'il s'agit d'un mot russe, mais cette réforme, elle a pour but de libérer l'économie. Il souhaite donc que le peuple décide. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai dans les faits puisque quand le peuple se révolte, qu'il manifeste, eh bien, des chars sont envoyés dans les rues de Moscou, notamment en 1991. Alors la perestroïka, c'est bien beau, mais cela ne marchera pas, l'URSS va quand même chuter. Le 8 septembre 1991, c'est la fin de l'Union soviétique et Gorbatchev démissionne quelques jours plus tard, le 25 septembre 1991. La Russie devient alors la Fédération de Russie. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi? Pourquoi l'URSS, eh bien, est devenue la Fédération de Russie? Premièrement, notre premier point, c'est parce qu'il y a une montée du nationalisme dans le bloc de l'URSS. Il y a de nombreux pays qui demandent leur indépendance, notamment les pays baltes, et il faut avouer que, parfois, cela va mener à une réussite pour ces pays puisqu'ils auront bien évidemment leur indépendance. Mais forcément, cela fragilise de l'intérieur l'URSS puisqu'il y a des révoltes en son sein et elle doit affronter des problèmes intérieurs avant de se concentrer aux problèmes extérieurs. En plus de cela, l'URSS va un petit peu changer de doctrine. Alors on l'a dit avec la perestroïka qui va vouloir libérer l'économie, mais aussi avec une autre réforme mise en place par Gorbatchev. Il s'agit de la glasnost. C'est une libération politique de l'URSS. Là aussi cela ne fonctionnera pas, mais cette glasnost, elle aura eu le mérite d'exister. En plus de cela, l'URSS, eh bien, elle fait face à de nombreux problèmes depuis 1980. Effectivement, eh bien, ça fait un moment qu'elle traîne plusieurs gros dossiers avec plusieurs exemples, notamment des mauvaises conditions de vie. Il y a 25% de mortalité infantile à ce moment-là en URSS. Il y a aussi le scandale de Tchernobyl, la fameuse centrale nucléaire qui a explosé en 1986. L'URSS n'assume pas le constat, elle n'assume pas les 35 000 morts et tous les problèmes sociaux que cela va engendrer. Depuis 1980, donc, il y a de nombreux signes d'affaiblissement dans l'Union soviétique, avec notamment en 1987 le traité de désarmement nucléaire qui est signé. On peut aussi signaler en 1988 le désengagement de la guerre en Afghanistan, qui montre bien, eh bien que l'URSS n'a pas la capacité d'être sur tous les fronts. On arrive donc en 1991 à une superpuissance qui est totalement effondrée. Nous assistons à un démembrement territorial. C'est en définitive une hémorragie. La nouvelle fédération de Russie, donc, eh bien, va devoir faire face à de nombreux problèmes pour se relever. Et il y a un homme qui va se proposer en tant que leader. Il s'agit de Boris Eltsine. C'est l'homme qui va gouverner la Russie juste après la chute de l'URSS. Et pour cela, il va avoir trois objectifs majeurs. Premièrement, Boris Eltsine, eh bien, il veut démanteler le communisme. Il ne veut plus que ça existe, il ne veut plus que ça revienne dans son pays. Il veut donc, bien évidemment, avoir une économie de marché, se rapprocher du capitalisme américain et arrêter cette économie fermée qui ne fonctionnait qu'en URSS. Il privatise alors les entreprises et cela profite aux oligarques. Je prends l'exemple souvent lorsque j'explique cela de Roman Abramovitch, l'ex-président de Chelsea, le club de football londonien, qui, comme de nombreux oligarques, lors de la chute de l'URSS, a acheté de nombreuses entreprises pour des bouchées de pain pour seulement quelques euros symboliques parfois et en a fait des entreprises florissantes puisqu'il y avait déjà toutes les infrastructures et les capitaux disponibles. Malheureusement, Boris Eltsine, il ne va pas réussir à faire fonctionner tous ses objectifs. Il ne va pas relever le challenge qui était face à lui. Il fait tout le contraire, il enfonce encore plus la Russie. Notamment, vous avez plusieurs extraits disponibles en ligne parce qu'il était alcoolique, tout est raté, le pays est encore une fois humilié, la criminalité est en hausse, il y a beaucoup, beaucoup de criminalité dans n'importe quelle région de la Russie. 50% de la population est sous le seuil de pauvreté. L'alcoolisme fait rage, ce n'est pas un mythe. Boris Eltsine démissionne en 1999. Alors lorsque Boris Eltsine a démissionné en 1999, il y a un nouvel homme qui va prendre sa place à la tête de la Russie. Il s'agit de Vladimir Poutine, qui à l'heure où je tourne ce podcast est traité parfois de fou après son invasion en cours de l'Ukraine. Vladimir Poutine donc, en 1999-2000, il prend la tête de la Russie et lui aussi il va avoir plusieurs objectifs, il va avoir plusieurs points principaux dans sa politique de réengagement, de relèvement de la Russie. Il veut notamment engager des réformes interne avant de prendre des réformes de politique extérieure. Il veut tout simplement rétablir la place de la Russie dans le monde. Pour cela, il s'appuie sur les souvenirs de l'URSS et sur les souvenirs de l'Empire de Russie à l'époque de Napoléon et des Tsars. Il met en fait en place une démocratie illibérale. Alors qu'est-ce qu'une démocratie libérale ? C'est un régime qui est élu démocratiquement, mais qui, prétendant avoir le monopole de la volonté générale du peuple, ignore toutes les limites constitutionnelles de son pouvoir, jusqu'à posséder les citoyens de leurs droits et de libertés. En fait, on se fait élire souvent avec des petites magouilles et puis derrière, on se sert de cette légitimité pour faire à peu près ce que l'on veut. Voilà la définition de démocratie libérale que Vladimir Poutine a mis depuis 1999 en place en Russie. Pour autant, il faut avouer que Vladimir Poutine obtient des résultats plutôt satisfaisants, notamment avec un IDH, un indice de développement humain, le principal indicateur pour mesurer le développement d'un pays, qui augmente relativement fortement puisque en 20 ans, il est passé de 0,7 à 0,85, sachant que c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. La croissance et les positifs de 2006 à 2014 et en 2008, la Russie intègre le G8, plus l'organisation du commerce de Shanghai qui marque son rapprochement avec la Chine et le début des relations de plus en plus étroites sino-russes. En 2002, il signe avec George Bush un traité de désarmement nucléaire, un autre, mais cette fois, il est beaucoup plus marqué puisqu'il marque son ralliement aux Occidentaux. Meilleure militairement, oui, c'est vrai, la Russie devient meilleure sur le plan militaire. Elle se sert notamment de la Syrie pour tester ses armes. On l'a vu, malheureusement, à de nombreuses reprises. Le soft power de la Russie, eh bien, il est en constante augmentation. Le soft power, c'est le fait de montrer sa puissance avec eh bien, des effets diplomatiques, avec, par exemple, Russia Today, le média qui a été un peu supprimé partout en Europe en ce moment, mais qui est une arme de soft power du Kremlin. Aussi, il va faire construire Vladimir Poutine des églises orthodoxes un petit peu partout dans le monde. Vous en avez une juste à côté des Champs-Élysées à Paris. C'est une église qui a été construite par le gouvernement russe. Alors, elle est magnifique et c'est une arme de soft power pour Vladimir Poutine et son gouvernement. La Russie va tenter, toujours dans le même sens, dans toujours le même objectif, regagner sa place dans le monde, d'organiser des événements internationaux avec notamment les JO de Sotchi en 2014 et la Coupe du Monde de football, la fameuse, en 2018. Cependant, il faut relativiser la puissance russe avec Vladimir Poutine, puisque c'est une puissance qui est synonyme de tension, d'atteinte aux droits de l'homme, car effectivement, même si les résultats sont bons, personne n'est dupe sur ce qu'il se passe souvent en Russie. Puisque par exemple, il y a de nombreuses cyberattaques, des guerres gelées et des guerres hybrides qui sont à l'origine de cet homme. L'économie est basée absolument seulement sur les hydrocarbures. Ce qui fait que les acteurs économiques sont méfiants, car si jamais il y a un problème avec ces hydrocarbures, le jour où il n'y en a plus, la Russie n'a pas vraiment d'autre alternative au moment où j'enregistre cet épisode. L'économie donc est relativement faible, et en plus de ça, la puissance est autoritaire, puisqu'il y a des fraudes aux élections, il y a de la propagande, et il y a harcèlement des opposants, avec l'exemple d'Alexandre Navalny qui a été emprisonné, empoisonné, sauvé en Allemagne avant d'être de nouveau emprisonné. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Si ce n'est pas le cas, peut-être la prochaine fois. Et si c'est déjà le cas, je vous souhaite une agréable journée. J'espère peut-être vous réentendre, avoir des retours à l'adresse email frenchtemplates.web@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux avec par exemple Instagram @french_templates. On se retrouve dans nos autres podcasts comme Parlons par exemple, où nous parlerons d'à peu près tout, mais toujours positivement. Le géopolitique, ça continue la semaine prochaine avec un épisode complet et gratuit. Je vous souhaite une agréable journée et surtout, n'oubliez pas, libérez votre créativité. C'était French Templates.